Les Romains, déjà, ont posé leurs normes de construction et d'administration au pays conquis. Lorsque le Romain arrivait quelque part, il disait « On se sent bien ici, construisons des WC. » Et ils construisaient des Vespasiennes et des routes.
CO2, mon amour.
Et aujourd'hui, on n'amène plus seulement les Vespasiennes et les routes. On amène le loisir. Après le gazon anglais, la neige des Alpes.
Il suffit de regarder autour de nous pour voir que notre civilisation du béton ne laissera derrière elle aucune ruine égyptienne, grecque, latine, aucune cathédrale. Seulement de la poussière grise et des poutres rouillées. Notre civilisation est vouée à l'oubli à cause de ces matériaux.
Denis Chesson.
On finit par lui appartenir, la nature nous gobe.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec Stéphane Poitevin et Raphaël Rousseau à la technique, et assisté de Camille Blanès, et bien c'est Xavier Pestugia qui réalise, oui, l'émission. Alors, avec une petite humeur, évidemment, que nous avons dégotée avec mon ami Albert Houck cette semaine, dites-le avec des fleurs à la Saint-Valentin. Et plutôt deux fois qu'une, oui, mais pas n'importe lesquelles de fleurs. Ça, c'est le message que nous susurre à l'oreille cette semaine Reporter, donc le magazine de l'écologie sur Internet. Donc, petit focus sur les fleurs coupées. Fleurs que nous, Français, peuple autant sentimental que bucolique, importons gaillardement, essentiellement depuis le pays des tulipes et des moulins à vent, qui lui-même pratique une cueillette intensive dans les pays du Sud, depuis le Kenya notamment. Séduisantes, mais ces jolies fleurs ont un côté peau de vache et dissimulent quelques surprises passées sous silence par les producteurs. Eh ben oui, autant de beauté cache une gourmandise sans borne en énergie, en eau, en produits chimiques. Une chimie pas toujours homologuée que des ouvriers payés au lance-pierre appliquent au mieux en Bermuda. Ah ben oui, le salarié kényan est quand même résiste à tout. Et puis pour être sûr d'obtenir de magnifiques floraisons, ben il faut bien gaver en fertilisant des sols qui n'en peuvent déjà plus. Il est intéressant d'ailleurs de constater que même en incluant le transport aérien vers l'Europe, eh bien une rose kényane émet 6 fois moins de CO2 qu'une rose néerlandaise bichonnée dans des serres surchauffées plein pot. En somme, côté intrants, c'est amusant, c'est le bouquet. Donc, restez fleurs bleues, mais le regard langoureux de votre marguerite, églantine, violette, jacinthe, garance, anémone, capucine, iris, angélique ou Marie-Rose, adorée, est à ce prix. Déconseillez-lui cependant de plonger son museau charmant dans votre cadeau. Ah oui, parce que vous avez des rhinites allergiques, des risques cutanés et parfois l'asthme qui pourrait bien plomber votre soirée de tourtereau. Mon amour, pourquoi tu te grattes soudain le nez aussi frénétiquement tout en éternuant partout? C'est pas terrible ça? Finalement, c'est tout bête. Si peu à peu le message consistant à manger les légumes de saison fait laborieusement son chemin, alors pour les fleurs, la question elle reste absolument bloquée sur « mais alors pas du tout ». Comme ça ne se mange pas, pas de réglementation et pas de limite dans l'overdose des produits chimiques employés. Pour bien faire, il faudrait que les effets du réchauffement climatique se fassent rapidement sentir. On pourrait alors faire pousser dans notre bel hexagone des roses en plein air, en plein hiver. Ah, si l'industrie chinoise, si Donald Trump et Claude Allègre ne lambinaient pas tant que ça, hein, on n'en serait pas là. En attendant ce plein essor de l'horticulture française, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas des petites fleurs locales issues de l'agriculture biologique? Eh ben si! Sauf qu'elles sont à peu près aussi faciles à trouver que l'âme sœur. Mais les possibilités éco-responsables existent bel et bien, comme à Fleurs de Cocagne, première structure à cultiver des roses bio en France. Le projet est porté par l'association Paris Cocagne, a été lancé à Avrinville, donc en Île-de-France. Et en gros, donc, des solutions alternatives ne demandent qu'à fleurir, même si elles sont encore en bouton. Maintenant, si à l'aube de la Saint-Valentin, toutes ces histoires de fleurs vénéneuses vous a laissé à fleur de peau, songez pour vous rassurer au côté éphémère de l'amour. Question écolo-philosophique. L'amour est-il aussi peu durable que le développement? Alors offrez un bouquet de branches, oui, de jolies branches mortes coiffées de papier crépon à votre dulciné. Ça au moins cette saison, et le bilan carbone est franchement positif. Alors d'accord, c'est peut-être un peu un crash test, hein. Mais alors si ça passe, c'est vraiment elle vous aime. Ah bah oui, c'est ça. Waouh, vous vous rendez compte, le chez-sous Albert Houck vient ni plus ni moins de taillader la Saint-Valentin. Un peu comme les sbires d'Al Capone l'avait fait en 1929. Allez, pour écouter l'émission, tout le monde réajuste son œillet à la boutonnière. Eh ben, vous voyez qu'il y a des initiatives alternatives. Eh ben, ça, bien sûr, on va en parler avec Eh bien, deux personnes, moi je suis très content parce que je reçois quand même d'un côté deux Césars et un Oscarisé. C'est quand même pas mal. Le César, ça c'était pour demain avec vous, cher Cyril Dion. Et puis aussi, donc, l'Oscar et le César, ça c'était en 2006. C'était pour La Marche de l'Empereur avec vous, Luc Jacquet. J'espère que vous allez très bien tous les deux. Et alors, en fait, ça va être deux regards, on va dire, de cinéastes, de gens qui sont engagés quand même pour la nature, avec évidemment l'appel du monde de demain dont on va parler avec vous, Cyril Dion. Mais c'est un peu deux regards différents, mais qui sont tout à fait complémentaires, Luc Jacquet, parce que là, vous sortez donc l'Empereur, on va revenir sur l'Empereur, 12 ans après, donc La Marche de l'Empereur. Mais voilà, vous allez à la fois dans le même sens, mais avec des moyens différents.
Oui, je suis juste un peu sidéré par toute tant d'éloquence autour des roses, mais c'est un dossier qu'on ne va pas ouvrir. Oui, effectivement, la question de l'Empereur, c'est évidemment quelque chose qui, moi, me taraude beaucoup. J'ai eu la chance d'y retourner, si je puis dire, l'année dernière avec une belle équipe. Et on vous ramène des images qui en valent la peine, je crois.
Oui, et donc c'est aussi donc, montrer que le vivant est extrêmement résistant, qui est derrière et qui peut-être quand même nous interroge aussi, quoi.
Bah, il y a beaucoup de choses là derrière. Il y a effectivement, je crois que le manchot empereur, en vivant là où plus personne d'autre ne vit, nous fait la démonstration que, à force d'acharnement, en renonçant à la territorialité, en renonçant à l'agressivité, il rend possible cette vie des extrêmes. Il y a peut-être pas mal d'exemples à tirer de là derrière. C'est toujours un peu peut-être frustrant de se dire qu'il faut aller aussi loin et dans des climats aussi compliqués pour arriver à trouver ces métaphores-là. Je crois qu'il y a aussi une interpellation de ce précieux, de ce fragile, qui aujourd'hui, les scientifiques nous le disent, est mis un peu en ballottage par toutes ces questions du bouleversement climatique, toutes ces questions de la circulation, de la formation de la banquise autour de l'Antarctique. Donc il y a effectivement beaucoup de choses à dire et il est toujours bon, à mon sens, de ramener ce manifeste du merveilleux, de l'émotion, pour arriver à toucher les gens et peut-être s'approprier davantage ce monde fabuleux dans lequel on vit.
Alors Cyril Dion, vous n'êtes pas parti complètement en Antarctique, enfin, me semble-t-il. Peut-être que
pas complètement, non.
Hein, pas totalement. Demain fonctionne très très bien. Plus de 1 100 000 téléspectateurs aussi, hein, parce que c'est passé. Hein,
c'est passé sur OCS, oui, ça va passer sur France 2. À la fin de l'année.
Des centaines aussi de milliers de DVD, donc ça fonctionne merveilleusement bien. Et puis, avec cette petite introduction là sur les roses, je parlais d'alternatives. Là, on parlait de Paris Cocagne. Alors, c'est une petite initiative, mais je veux dire que c'est aussi ça, l'appel de demain dont on va parler. Ça veut dire qu'on peut envisager le monde aussi différemment.
Oui, et puis ça veut dire surtout qu'on a besoin que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre simplement qu'il y ait des réglementations qui obligent à faire des fleurs qui ne sont pas remontées jusqu'aux Pays-Bas. Parce que ce que vous avez pas dit, qui est assez dingue, c'est que quand vous achetez des fleurs qui ont été produites à Nice, par exemple, il arrive qu'elles reprennent l'avion jusqu'au marché mondial des fleurs qui est aux Pays-Bas et qu'elles redescendent chez votre fleuriste à Nice.
Super.
Donc ça, c'est quand même hyper malin. Donc, moi, je pense qu'on a besoin de gens qui sont des pionniers, qui commencent par faire des choses et qui donnent de l'énergie aux autres pour le reproduire et qui, finalement, finissent par faire comprendre aux responsables politiques qu'on pourrait faire beaucoup plus malin, recréer de l'emploi près de chez nous, etc., etc. Et cet appel, c'est ça. C'est dire, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, si on est élu, entrepreneur, simple citoyen, cinéaste ou quoi que ce soit, on peut commencer à transformer la société.
Alors, l'appel du monde de demain, nous allons y revenir au cours donc, de cette émission, avec nos deux cinéastes, avec nos deux prix, nos deux Césarisés, c'est formidable, et puis aussi un peu de musique. Gilles Kaplan, on y va.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Tu me dis, il faut être raisonnable. Le temps recouvre nous, c'est du sable. Quand je n'abrite aucune seule flamme, quand je recherche trop. Tu te dis les charbons et les braises. Oh mon Dieu, comme tout ça me pèse. Toi qui voulais une vie de confort et la seule jouissance du corps. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Mon amour serait-il trop fort? Toi paisible qui se tient près du bord, moi qui marche tout en déséquilibre et recherche ta cage pour être libre. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Être raisonnable, le temps recouvre nous, c'est du sable. Quand mes sentiments font une cascade, tu me dis peut-être plus aimable. Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes?
Est-ce que tu m'aimes, c'est dans CO2 mon amour. Évidemment que ça va très très bien ensemble. C'était Gilles Kaplan donc sur France Inter. Et je vous le rappelle, donc aujourd'hui autour de cette table, Cyril Lion et Luc Jacquet qui n'est pas venu tout seul. L'empereur, j'allais presque dire l'empereur, le retour. C'est vrai qu'il y a toute une génération qui n'a pas forcément vu donc la marche de l'empereur. Et puis là, bah écoutez, alors si, ce qui marche très très bien dans ce film, c'est qu'il y a très peu de cachets de comédiens. Hein. Donc on a des manchots, on a des pétrels, on a d'autres formes de manchots. Je ne sais plus si on avait un phoque peut-être de Vedel, je ne sais pas du tout.
On aperçoit un phoque de Vedel, mais c'est un peu un quiz quand même. Hein.
C'est ça.
Qui se trouvera le phoque de Vedel dans l'empereur?
Eh ben, je l'avais vu. Ah, vous voyez, c'est, mais il est passé très vite hein, quand même. Il était, c'était
je
ça.
Je sais exactement où il est.
Et voilà. Et avec la voix quand même de Lambert Wilson. Et donc c'est vrai que pour même arrivé là-bas, il ne faut pas chercher une compagnie low cost avec du personnel qui sera mal payé. Pour franchir le 40e parallèle, les 50e hurlants, on est, je vous le rappelle, à 2000 km de la Nouvelle-Zélande. On est à 1000 km de l'Amérique du Sud, sur ce territoire 25 fois grand comme la France. Et donc, on a cette épaisseur de glace immense. On a 80% des réserves d'eau douce et nous avons nos manchots qui ne se plaisent qu'ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le climat que nous avons ici sur la France, c'est les Bermudes. Hein. C'est à peu près ça pour eux. Donc,
Oui, c'est vrai qu'ils ont, on appelle ça la neutralité thermique. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de moins 20, pour eux, c'est chaud.
C'est ça.
Voilà. Donc ça vous donne une idée. C'est vrai que des performances absolument incroyables. Ils tiennent facilement à moins 40, 200 km/h de vent, donc avec un pouvoir refroidissant absolument phénoménal. Une capacité à se serrer les uns contre les autres dans ces formations qu'on appelle les tortues pour faire monter la température jusqu'à 38 degrés. Donc des adaptations phénoménales. Il y a un truc qui, moi, me fascine vraiment, c'est que quand il fait moins 40, l'empereur est capable de faire baisser la température de son plumage de 2 degrés en dessous pour, comme une pompe à chaleur, encore aller récupérer des calories à l'extérieur. Et ça, je pourrais vous en faire tout un chapelet. Non, c'est une bestiole qui... On a cette image de l'animal maladroit, un peu amusant. En fait, c'est une espèce de concentré de technologie naturelle, c'est phénoménal. Et surtout, une amplitude. Entre les 600 mètres de profondeur dans les abysses, où il va être capable de plonger dans l'obscurité la plus complète, jusqu'au moment où en quelques minutes il va ressurgir vers la surface et se faire 150 km à pied dans le blizzard, c'est phénoménal. Et ce qu'on ressent là-bas, c'est d'abord et avant tout du respect pour cet animal.
C'est-à-dire que son lieu de nidification, donc le Maroc, peut être à 150 km, c'est ça, donc de la
ouais,
mer.
Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est le manchot vit dans une espèce d'étrange paradoxe. Hein, c'est que il niche, il fait son poussin, il pond son œuf sur ses pattes, certes, mais sur une banquise stable, donc de la mer gelée. Mais il est obligé d'être le plus loin possible du bord de mer, puisqu'il ne faut pas que cette banquise soit détruite, qui par les tempêtes, qui par les marées, etc., etc. Du coup, il fait le trajet à pied. Et le trajet à pied, ça peut vraiment être très long.
Et alors, le manchot n'est pas macho. C'est-à-dire que là, il y a une répartition des tâches. Non, c'est fait.
Mais, comment, on ne va pas continuer.
Mais non, mais si, non, on va quand même, faire. Mais on avait droit à deux. Et vous aussi.
D'accord.
Pas plus.
Ok, deux.
Pas okay, plus, voilà.
On en reste là.
Bon, donc, non, mais c'est vrai qu'il y a une répartition des tâches quand même absolument incroyable.
Je crois que c'est en ça que cette espèce nous touche à ce point, c'est qu'effectivement il y a un effort parental phénoménal pour arriver à garder ce petit en vie en dépit des conditions absolument abominables. Et le cycle de l'empereur ne peut passer qu'effectivement s'il y a un relais, une espèce de partage parfait des tâches entre le mâle et la femelle. Mais je vous ai aussi parlé de solidarité, c'est-à-dire que il y a vraiment des choses qui nous interpellent. Ce ne sont que des oiseaux, ne nous trompons pas. Mais il y a quand même des choses qui, pour tenir dans l'invivable, rappellent des valeurs qui sont pour nous des choses très très fortes.
Et alors Cyril Dion, je veux dire que le point commun que nous avons, on va dire, tous autour de cette table, et puis beaucoup de nos amis donc, qui nous écoutent, c'est d'essayer quand même de garder un monde qui est habitable et qui soit tout à fait désirable. Mmh. Là aussi, évidemment, ces animaux-là, s'il doit y avoir du réchauffement climatique, on ne sait pas comment ça va se comporter, mais on se souvient
pour...
Ça peut aller effectivement assez rapidement. Et on est dans cette bascule que je trouve à la fois très excitante aussi de l'histoire, c'est-à-dire que on ne sait pas encore où on va, on ne sait pas quel va être le sens de l'histoire. Nous sommes nous dans un pays tempéré où les choses, je n'oublie pas bien sûr évidemment la misère et l'état de pauvreté quand même de plus de 9 millions d'individus, mais où on se dit globalement ça va pas trop mal, les effets du réchauffement climatique, on les a pas complètement sous les yeux, les politiques disent mais oui, mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Est-ce que vous avez voulu faire d'où avec cet appel du monde de demain? C'est-à-dire non, on n'a pas envie de subir ça, on n'a pas envie de subir ça et on a envie de prendre un peu plus que ça les choses en main.
On n'a pas envie d'attendre la catastrophe, c'est-à-dire que la plupart des scientifiques nous l'annoncent depuis un bon moment, et le temps entre le moment où la catastrophe va arriver et l'époque actuelle se rétrécit de plus en plus. Là, on nous parle de 20 ans maintenant.
Ouais.
Donc moi, ce que je trouve génial, par exemple, dans le travail que fait Luc, c'est on a besoin de s'inspirer de la nature, on a besoin de comprendre tout un tas de mécanismes naturels dont on pourrait s'inspirer, qui seraient beaucoup plus vertueux que la technologie qu'on va essayer de développer, qui elle continue à utiliser beaucoup de matériaux, beaucoup d'énergie grise, etc. Ce qu'on montre par exemple dans Demain avec la permaculture, ou quand on fait en sorte que l'intelligence des êtres humains et la recherche scientifique rejoignent ce que la biosphère est capable de faire par elle-même et l'intelligence de la nature, et y ajoute quelques outils, en essayant de faire que ces outils soient les plus low-tech possibles, et que la conjonction de ces trois choses-là permet parfois, comme la permaculture le fait, de recréer encore plus de biomasse, d'installer encore plus de biodiversité. On voit qu'on a des techniques aujourd'hui qui permettraient presque de régénérer la nature. C'est ce qu'Isabelle Delannoy appelle l'économie symbiotique. Mmh. Elle dit finalement, dans la nature, la symbiose, c'est le phénomène le plus répandu. Et on a besoin de trouver le bon équilibre pour créer une symbiose entre l'écosystème naturel, l'écosystème humain, qui amène quelque chose de spécifique, qui est la capacité d'organiser, la capacité de prévoir, et la technosphère, donc les outils, en cherchant à ce que ces outils aient le moins d'impact possible sur notre environnement et sur les humains, évidemment. Et donc quand on voit qu'on a toute cette intelligence sous la main, qu'on a toutes ces potentialités, que c'est passionnant de faire ça, que c'est vraiment l'avenir, moi je me dis, mais bon sang, est-ce qu'on va arrêter de parler de la corruption des hommes politiques, qu'on va arrêter de se chicaner entre la droite et la gauche, et est-ce qu'on va être capable de tous ensemble mettre tout notre talent, toute notre énergie au service de ce projet-là, qui est le seul projet intéressant pour l'avenir? Comment on va sauver l'humanité, mais aussi comment on va devenir plus intelligent, plus heureux, plus épanoui, etc.
Alors, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des responsables politiques, des grands industriels, des multinationales, aussi des syndicats, des administrations qui ne sont pas d'accord avec ça et qui vont vous dire bah oui mais c'est trop cher, c'est trop compliqué et la situation elle est peut-être pas aussi catastrophique que ça, donc on le voit. Et à côté de cela, on voit plein de forces vives qui sont là, qui sont aussi tout à fait en mouvement, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer.
Oui, en fait là ce qu'on dit avec cet appel, c'est La situation est très grave et honnêtement, si vous pensez qu'elle est pas si grave que ça, passez ne serait-ce qu'une heure sur Internet, sur des publications scientifiques qui annoncent ce qui va se passer, et je vous assure que c'est la catastrophe. C'est-à-dire que c'est effondrement des... Enfin là, on est quand même dans la sixième extinction de masse des espèces. Le réchauffement climatique va de plus en plus vite. On a été justement dans l'Arctique à des températures complètement démentes ces derniers mois. On a une conjonction de facteurs...
Avec le réchauffement pour l'Arctique.
Pour le réchauffement, oui. On était à 20 degrés.
Voilà,
plus 20 degrés. Enfin, je veux dire, c'était complètement fou. Les espèces disparaissent mille fois plus vite que la normale. Alors évidemment, on les voit pas parce qu'on habite dans un environnement urbain, mais les gens qui vivent dans la nature le voient. Et on pourrait continuer cette litanie-là, et je pense que c'est pas forcément l'objet de notre conversation-là, mais regardons cette situation en face, vraiment, et voyons qu'en plus, elle se conjugue avec d'autres situations que sont les migrations, que sont le terrorisme, que sont la raréfaction des ressources naturelles, et que ça nous promet un cocktail explosif. Donc, où on attend que ça explose, et qu'on se retrouve dans une situation dramatique, ou alors, on met l'accent et on encourage finalement tout ce qui se fait de bien. Donc aujourd'hui, nous, on appelle à la fois les gens à se réunir, c'est-à-dire à dire, comptons-nous, regardons combien on est à vouloir construire cette société de demain. Et prenons conscience qu'on est une force de transformation extrêmement importante. Il y a quelques années, il y a eu une étude sociologique qui a été menée aux États-Unis, qui s'est appelée l'étude sur les créatifs culturels, qui essayait de regarder quelle était la proportion de la population qui était déjà dans un nouveau faisceau de valeurs, qui croyait qu'il fallait aller plutôt vers l'agriculture biologique, créer un équilibre entre masculin et féminin dans la société, s'engager socialement, avoir une recherche de sens, une forme de spiritualité au sens presque laïque du terme. Et ils se sont rendus compte que ça représentait 24% de la société américaine. Quand cette étude a été faite en France et en Europe, on s'est rendu compte que la proportion était relativement similaire. Et cette étude a été réactualisée dernièrement et on est plutôt à 30-35% aujourd'hui. Mais la particularité de ces gens, c'est quand on leur dit « Combien est-ce que vous pensez que vous représentez dans la société ?» Ils disent
5-6%.
Voilà, exactement, 5%. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une force qui s'ignore. Or, dans les médias, aujourd'hui, on entend dire que les gens vont vers le Front National, qu'ils sont en colère, qu'ils se replient sur eux-mêmes, alors qu'il y a une proportion incroyablement importante de gens qui, non, ont envie de transformer la société, sont déjà en train de regarder le monde différemment. Il y a une étude aussi qui a été publiée récemment, qui s'appelle Generation What, qui était une étude sur les 18-34 ans, qui a été menée dans toute l'Europe. Et simplement sur la partie française de l'étude, sur les 18-34 ans, leur préoccupation numéro 1, c'est devenu l'écologie. Devant l'emploi, devant la sécurité, devant tous les autres sujets. En revanche, cette génération dit, à 99%, les politiques sont corrompues et la plupart agissent plutôt dans leur intérêt personnel et pas dans l'intérêt général. Donc on voit bien en fait que la conjonction de ces deux informations-là nous appelle à construire ce mouvement extrêmement vaste qui va pouvoir à la fois réinventer la politique au sens institutionnel du terme, mais aussi la réinventer tous les jours. C'est-à-dire que dans nos entreprises, dans nos vies de tous les jours, qu'on commence à faire émerger finalement cette nouvelle société. Donc la première des choses qu'on propose aux gens, c'est d'aller signer cet appel, donc sur lechampdescolibris.fr, pour que cette force et cette masse dans la société deviennent visibles par tous.
Alors bien sûr, vous avez ce site, sur le site de CO2 Mon Amour, vous Luc Jacquet, donc ce mouvement-là, vous le voyez aussi lorsque vous êtes, même en parlant donc des manchots, en parlant des forêts qui vous sont aussi extrêmement chères, grâce à ce film d'ailleurs que vous avez fait avec Francis Allais, quand vous allez rencontrer donc le public, vous voyez bien qu'il y a une demande qui est différente aujourd'hui.
Il y a plusieurs éléments. Moi, je trouve que Cyril a raison de pointer la dynamique positive qu'il faut engendrer. Je crois qu'on s'est beaucoup trompé quand on a dit qu'il fallait sauver les petits oiseaux. Ça a été une erreur majeure.
C'était le début plutôt.
Voilà, on hérite.
Il fallait commencer par quelque chose.
Je pense qu'il y a un travail de pédagogie considérable aujourd'hui. C'est vrai que il y a plein de gens qui ont intérêt à nous enferrer dans ce discours un peu fatigant, moralisateur. Je crois qu'il faut créer effectivement des dynamiques. C'est vrai que quand j'évoque la question du réchauffement climatique avec la glace et le ciel, quand je vois les jeunes que j'ai aujourd'hui en avant-première...
Ça, c'était ce film formidable sur Claude Lorius.
C'est vrai que les jeunes, tous les enfants ont ça. Je sais plus, 10 avant-premières ou 15 avant-premières de L'Empereur depuis une dizaine de jours. Il n'y a pas une fois où il n'y a pas un enfant qui se lève et qui me dit, mais alors... depuis 12 ans que vous allez là-bas, est-ce que vous avez vu les choses changer? On peut pas laisser les jeunes avec ça dans la tête. On peut pas. Déjà, moi, je m'insurge, je ne peux pas imaginer laisser à nos enfants un monde sans empereur, sans forêt primaire, etc. Ça, c'est pour moi, moi, ça serait une faillite morale. C'est aussi simple que ça. La deuxième chose, c'est les accompagner là-dedans. Il faut leur donner l'envie de se battre. Et là, je rejoins Cyril dans cette idée-là. C'est-à-dire que il faut qu'on recrée une utopie. Il y a plein de gens qui nous disent « Ah, vous les écolos, vous nous renvoyez à l'âge de la pierre. » Quelle simplification. Non, même... À quoi on fait appel aujourd'hui ?
Et ça, on l'a dit. C'est même de la paresse intellectuelle aujourd'hui
que
de dire ça.
Non, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toutes les technos. On a toute la créativité à disposition. On est en train de faire appel au meilleur de l'humanité pour inventer un monde qui soit... pas un monde qui soit prédateur ou cannibale. Donc là, je pense qu'il faut qu'on arrive à retourner le système. Chacun le fait finalement avec les outils, avec ses intuitions, avec son talent. Mais je crois qu'effectivement, il faut continuer à avancer dans cette logique-là parce qu'on n'est pas très loin. C'est vrai qu'on n'est pas très loin, mais il y a tellement de gens qui ont intérêt à ce que ça ne change pas.
Ben oui, bien sûr. Et d'autres...
Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être nombreux. Enfin, là, ouais, en l'occurrence, cet appel a aussi cette vocation-là. Moi, j'adore un type qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est petit, tout seul et sans armes ?» Il y a un gars qui s'appelle Zdra Popovic, qui était un des leaders du mouvement qui a chassé Milosevic au début des années 2000 et qui, depuis, a créé une ONG qui s'appelle Canva, qui, en gros, leur métier, c'est conseiller mondial en révolution. Donc l'idée, c'est que des gens viennent bien les voir du monde entier pour dire « On voudrait faire la révolution dans notre pays, comment on s'y prend ?» Et ils ont quand même conseillé les gens qui ont fait la révolution en Égypte, la révolution orange en Ukraine, en Géorgie, etc. Donc, bon. Et il dit un truc qui est très juste, il dit « Dans une lutte non violente, la seule arme dont vous disposez, c'est le nombre. » Donc aujourd'hui, la seule arme dont on dispose face au lobby, face à l'inertie, face à toutes ces forces justement conservatrices qui voudraient maintenir ce monde capitaliste, prédateur, consumériste en place, c'est d'être le plus nombreux possible. Et le jour où on sera des millions, non seulement à agir dans notre vie de tous les jours, mais aussi à descendre dans la rue, mais aussi à faire pression... Ce que je trouvais intéressant là, c'est que quand on regarde la primaire de la gauche et qu'on voit que le candidat du Parti Socialiste, qui est pas tellement un parti hyper écolo d'habitude, gagne sur un programme qui est sans doute le plus écolo qu'on ait jamais vu, c'est qu'ils ont compris qu'il y a un électorat qui attend ça. Je sais pas s'ils le feront, j'espère. Mais en tout cas, ils ont compris qu'il y a un électorat, donc que ces idées avancent. Aujourd'hui, on a besoin que cette conscience que la population française et mondiale attend d'aller vers un monde comme ça, a besoin d'être beaucoup plus forte. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se manifester.
Alors je vous propose de retrouver une femme que vous connaissez et que j'ai interviewée hier, qui est Marie-Monique Robin, qui donc a sorti son film « Qu'est-ce qu'on attend ?», donc film sur la transition énergétique qui se passe en Alsace, à Ungersheim. Elle aussi donc est signataire donc de ce fameux appel pour un monde de demain.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transition, et c'est ce qu'on voit aussi dans le film, qu'est-ce qu'on attend, et c'est l'idée aussi de l'appel du Colibri, c'est pas du tout un sacrifice. C'est du bonheur, c'est du lien, c'est l'envie de refaire des choses ensemble, collectivement, dans l'intérêt général. Et ça, chacun peut l'entendre, et chacun même, je le vois en faisant ma tournée en ce moment pour le film, tout le monde attend ça, tout le monde attend la possibilité d'œuvrer ensemble pour le bien commun. Et voilà, donc l'appel des Colibris, c'est l'appel à toutes les consciences individuelles, que chacun, là où il est, il peut, à sa mesure, faire quelque chose.
Marie-Monique Robin, vous êtes déjà projeté, vous de même plus loin, c'est-à-dire que vous aviez déjà pensé 2030, 2032, pour être tout à fait précis. Comment vous sentez cette affaire? C'est-à-dire que là, on est sur un moment de bascule incroyable, on est sur une fin de civilisation complètement démente. On voit bien qu'il y a plein de ferments qui sont là. Ça ne fait pas encore sens, parce que ça ne percole pas totalement, si vous voulez, dans le cortex peut-être de nos décideurs, mais malgré tout, ils sont obligés d'en prendre compte. Comment vous voyez ce monde d'ici, allez, 15 ans?
Alors, on sent clairement qu'on est à la croisée des chemins. Ça se sent y compris dans les programmes électoraux. On voit que la transition, finalement, finit par infuser, comme a dit Nicolas Hulot. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, moi, j'avais dans mon livre « Sacrée croissance », qui est sorti en 2014, j'avais imaginé que notre président François Hollande avait lancé la grande transition, comprenant que la croissance n'était pas la solution, mais c'était le problème, et qu'il fallait absolument tenir compte de ces grands enjeux qui caractérisent le 21e siècle, l'extinction de la biodiversité, le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources, l'augmentation de la précarité, des inégalités, etc., et qu'il avait lancé la grande transition. Et j'écris donc mon livre en 2034, où je raconte tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place, et qu'on peut faire. Voilà, on peut le faire, on sait ce qu'il faut faire pour aller vers une société plus durable, plus juste, plus équitable. Alors là, on sent que ça bouge, que de plus en plus de citoyens d'abord sont conscients qu'on ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, je dirais qu'ils sont souvent beaucoup plus lucides que ne le sont nos dirigeants politiques, partout il y a des initiatives, l'appel des colibris, des territoires qui se bougent comme Ungersheim, ou alors des pétitions qui circulent hein, pour que les candidats à la présidentielle se rassemblent pour essayer de dessiner ensemble un programme pour les biens communs, les stades citoyens, enfin on sent qu'il y a vraiment une effervescence partout, et avec toujours l'idée que ça ne sera pas des sacrifices, mais au contraire.
Et il y a même, Marie-Monique Robin, des signaux aussi, là, pour le coup, qui sont assez visibles. Pour la deuxième année consécutive, Davos donc a mis en avant le réchauffement climatique et un peu la perte de la biodiversité dans le business de demain. Et on se rend compte aussi que vous avez des fonds de pension internationaux qui investissent maintenant beaucoup moins dans les énergies carbonées.
Oui, ça gagne tous ceux qui pensent, à tant soit peu, ou qui sont les acteurs économiques, et fort heureusement, parce qu'il faut bien penser qu'on nous sommes dans un Titanic, hein, c'était le titre du film qu'avait fait Nicolas Hulot à l'époque, que personne n'avait compris, peut-être trop tôt, hein, c'était trop tôt.
Le syndrome du Titanic, oui.
Le syndrome du Titanic, on est dans un Titanic, c'est-à-dire, vous savez ce qui se passe avec le Titanic, hein, à la fin, il coule. Alors, nous, les humains, parce que moi, je dis toujours que la planète, elle continuera à tourner sans nous, donc... Je pense que le Titanic fait que il y a des gens, donc comme vous le dites, des fonds de pension, des grandes entreprises qui commencent à se dire que c'est de l'intérêt général et commun que de changer de cap si on veut éviter de couler tous ensemble. Voilà. Alors la question c'est comment on fait pour convaincre les fameux 1%, vous savez, c'était le mot d'ordre des indignés en Espagne, mais après il y a eu un rapport de Oxfam qui confirmait qu'aujourd'hui 1% des plus riches de la planète possèdent la moitié du patrimoine mondial, hein, et qu'il y a moins de 100 personnes qui possèdent autant que 3 milliards 500 millions, ça c'est un vrai problème, c'est 1% qui vivent dans une bulle, une vraie bulle, hein, parce que c'est aussi une bulle financière, hein, parce qu'ils sont liés au système financier qui est très court-termiste, hein, qui a très court terme, et donc comment on va faire pour les atteindre et leur dire attention, il faut que on change tous ensemble, parce que sinon, nous allons disparaître ensemble. Voilà, couler ensemble. Voilà.
Bon, alors, pour éviter tout cela, l'appel du monde de demain, puis moi je vous renvoie bien sûr à ce film, qu'est-ce qu'on attend, si vous voulez faire un petit tour du côté de l'Alsace, et de voir donc une municipalité qui est, en avance. Oui, ici elle est en avance par rapport au système actuel, et de voir que les choses se font de façon tout à fait heureuse. Merci beaucoup Marie-Monique Robin, et puis à très très bientôt.
Et juste avant d'envoyer donc cette chanson, Neil Young, cher Cyril Lyon, vous me disiez que Neil Young était aussi assez actif.
Eh bien, parce qu'il a fait il y a 2 ans un album anti-Monsanto, avec toute une tournée anti-Monsanto, pour expliquer que Monsanto arnaquait les paysans américains et puis détruisait la terre.
Comment, c'est pas un bienfait en l'humanité?
Si, mais qui s'ignore alors. Ah, ça. Et ensuite il a fait un album live de sa tournée qui s'appelle Earth, donc Terre, et il est hyper hyper engagé, oui.
See people being led by the righteous hand, taking care of everyone like they were on a piece of land. Show me. You have to say
feel, 'cause that's what made me this way. When heaven on earth is improved by the hand of man, and people everywhere get together and join their hands, show me, show me, show me, show me, show me.
Tu te souviens quand on allait faire du cerf-volant au parc? On se débrouillait bien tous les deux. Monter haut, très haut, ça t'épatait. Tu vois, la vie, la mort, ça nous dépasse tous. C'est comme le cerf-volant.
CO2, mon amour.
On croit qu'on le maîtrise, mais en fait, c'est le vent, juste le vent.
Denis Chessou.
Et oui, le vent qui emportera nos poussières bien plus tard. Voilà, donc à la fois de la volonté et de l'humilité sur cette basse terre, qui est merveilleuse, qui est quand même merveilleuse. Moi, je suis un petit manchot, je fais 40 kilos, je fais 1m25, 1m30. Et alors, j'ai une silhouette Luc Jacquet. Mais, enfin, voilà, on regarde cet animal. Et alors, il n'est pas farouche une seconde, parce qu'il n'a jamais été véritablement chassé, celui-là.
Non, là aussi, une autre métaphore. C'est vrai que l'homme n'a jamais colonisé l'Antarctique. On sait que Cook l'a approché, qu'il y a plein de gens qui ont essayé. On est vraiment présent là-bas avec des bases scientifiques que depuis les années 50. Et du coup, les animaux n'ont jamais appris à avoir peur de l'homme. Ils ne nous considèrent pas, génétiquement parlant en tout cas, comme des prédateurs. Mmh. Et pour peu qu'on ait la courtoisie de s'approcher doucement, de les laisser venir quand ils ont envie d'aller venir, bah effectivement, il y a cette rencontre qui est absolument géniale. Moi, je trouve qu'une partie de l'addiction que j'ai pour ce lieu-là tient aussi de cette proximité avec le monde animal qui vous laisse l'observer comme ça en toute transparence. Et c'est vrai que quand vous faites un bout de chemin le soir sur la banquise et qu'il y a un empereur qui vous accompagne, et qui va repartir dans son coin, ben ça fait un truc que vous oubliez jamais, quoi.
Ouais, oui, oui, non, mais ça peut s'appeler allez, un échange peut-être. Je sais pas. Fin...
Oui, c'est au-delà de ça. C'est presque une réconciliation, quoi. Enfin, ouais. Moi, j'ai essayé de réfléchir à ces questions-là et j'avais un peu bossé là-dessus dans Le Renard et l'Enfant. Qu'est-ce qui fait qu'un animal s'enfuit quand vous vous approchez? Il y a quand même quelque chose de, en dépit du fait que vous êtes bienveillant vis-à-vis de lui. L'animal n'a pas du tout appris ça. Il sait que s'il veut rester vivant, il faut qu'il s'en aille. Et je trouve que ça nous renvoie une image de l'être humain dans la nature qui est assez pénible à porter. Et c'est vrai qu'il y a cette réconciliation-là en Antarctique. Bon, il y a un impact malgré tout, on l'a dit tout à l'heure. Mais je crois que c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, que de pouvoir vivre ça. Et on parlait tout à l'heure de l'envie de se mobiliser. Quand vous avez vécu des instants aussi forts que ceux-là, mais ça peut être ailleurs sur la planète, vous devenez forcément militant. Vous dites, mais je veux pas que ça s'arrête. Je veux pas être le seul à en jouir. D'abord, la moindre des choses, c'est de partager ça avec tout le monde. C'est parce que je sais faire de sorte que les gens puissent s'approprier ça. Et puis la deuxième chose, c'est de transmettre ça à nos enfants, transmettre ça aux générations qui viennent. On peut pas killer ça comme ça en disant, bah tant pis, nous on en a profité, tant pis pour les autres, quoi.
Alors, on retrouve aussi cet empereur donc, qui sort là, ça y est, donc, pour l'empereur sur vos écrans, mais aussi dans un bouquin assez formidable donc, qui s'appelle donc simplement L'Empereur aux éditions Paulsen. Et puis vous avez aussi donc, ce numéro de Terre Sauvage qui vient de paraître, c'est notre partenaire hein, depuis longtemps, donc ce numéro de mars avec en couverture donc, Le Monde Grandeur Nature, Antarctique, l'incroyable expédition. On va citer quand même Vincent Munier que l'on connaît bien dans cette émission, qui est photographe, qui adore le blanc, c'est un garçon donc, des Vosges, et puis Laurent Balesta qui est un biologiste marin qui a fait des images assez extraordinaires à moins 70 mètres de fond, enfin 70 mètres de fond.
Oui, ça c'est une première mondiale, alors une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, mais moi ça avait été une frustration sur la marche de l'Empereur de ne pas avoir pu aborder le volet océanique de la vie de l'Empereur.
Il passe 6 mois de l'année.
C'est avant tout un animal de haute mer qui est remarquablement fait pour la nage et la plongée. Donc ça c'est sûr que c'est l'équipe de Laurent Balesta qui est allée se charger de ça. C'est Yannick Gentil qui signe les images. C'est vrai que c'est un travail phénoménal, puisqu'imaginer des plongées à moins 1,8 degré sous la pression de la banquise au-dessus de leur tête, qui rendent ces plongées quand même extrêmement dangereuses. Et on a découvert un monde extraordinairement stable, extraordinairement beau, extraordinairement coloré aussi. Il y a des images que nous a remontées Laurent, où on se croise sous les tropiques, tellement les formes sont diversifiées, tellement il y a des accumulations d'espèces, tellement il y a du rouge sous toutes ces couleurs, j'allais dire. Non, il y a vraiment encore un potentiel de découverte vers ces zones abyssales en Antarctique qui sont extraordinaires.
Cyril Dion, peut-être même question qu'a Luc Jacquet tout à l'heure, lorsque vous aussi, donc, vous allez parcourir la France et un petit bout d'Europe avec votre film demain, quelles sont les attentes un peu des gens et quelles sont peut-être les entrées qui les font davantage bouger? Est-ce le côté santé, le côté nourriture saine en générant les sols? Est-ce que c'est le côté énergie? Quels sont les thèmes que vous voyez aborder? Ou bien c'est peut-être plus transversal que ça donc,
Oui, là moi j'ai fait 17 pays et plus de 120 villes, donc j'ai vu pas mal de gens. Et ce qui est très très commun à chaque fois dans les rencontres qu'on fait, c'est que il y a d'abord une espèce d'élan à faire quelque chose qui est indéterminé, qui est de dire on veut y aller, on veut être utile.
Moi, c'est presque de l'instinct là aussi.
Oui, et puis je pense que c'est une réaction presque immunitaire.
Bah oui.
Et moi j'ai tendance à proposer aux gens d'essayer de trouver la chose qui les passionne le plus, en fait, pour laquelle ils ont le plus de talent. En disant, d'une certaine façon, si on veut transformer la société, évidemment, on peut le faire de plein de façons différentes et on peut le faire dans son quotidien, mais on va pas le faire entre 18h et 20h en faisant des petits gestes ou en allant dans une association. On va le faire parce que l'essentiel de l'énergie qu'on consacre dans notre journée, on va la mettre à construire un monde différent. Donc, commencez par vous demander, si j'avais 20 millions d'euros sur mon compte en banque et que j'avais plus jamais besoin de travailler, qu'est-ce que je ferais? C'est quoi la chose qui m'habite tellement que ça me donnerait de l'énergie, et commencer par faire ça. Et parfois, il y a des gens, j'ai une amie qui est passionnée par les déchets, qui est responsable du territoire zéro déchet dans la vallée de Chambéry. Bon, bah, génial, hein. Il y en a d'autres, c'est l'agriculture, il y en a d'autres, c'est être prof, il y en a d'autres, c'est l'économie. Là, j'ai vu plein de gens à la sortie du film me dire, mais finalement, le chapitre qui m'a le plus marqué, c'est celui sur la création monétaire et sur l'économie, parce que je comprenais pas ce truc-là. Et effectivement, on nous parle tout le temps d'économie à la radio, j'y comprends rien, et là, j'ai compris. Et je me rends compte que si on se réappropriait l'économie, on pourrait faire plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de démocratie en ce moment. Cette espèce, justement, de sentiment que le modèle démocratique marche plus, pousse plein de gens à s'intéresser à des initiatives. Il y en a une, par exemple, en France, qui est très intéressante, qui s'appelle Parlement et Citoyens, qui est une plateforme qui met en relation des citoyens et des parlementaires, avec l'idée que des parlementaires peuvent mobiliser des citoyens pour les aider à améliorer des projets de loi, et que, de l'autre côté, des citoyens peuvent proposer des projets de loi à des parlementaires pour qu'ils puissent les porter à l'Assemblée. Et il y a un exemple particulièrement réussi qui a eu lieu avec Joël Labbé, qui est sénateur du Morbihan.
Sur les pesticides.
Voilà, qui était la loi sur l'interdiction des pesticides dans les espaces publics. Oui. Et qui est une loi qui a été vraiment travaillée et promulguée, j'ai envie de dire, de concert entre des citoyens et ce parlementaire, et grâce à cette plateforme-là. Donc, dans l'appel du monde de demain et dans le champ des colibris, dans cette campagne, on essaie de renvoyer les gens aussi vers plein d'outils différents pour se mettre en action, dont ces outils démocratiques-là.
Ça, il faut dire aux gens, bon, vous n'allez pas pouvoir embrasser tous ces problèmes, donc prenez ce que vous pouvez faire. Et ce qui évidemment est déjà pas mal. Et un homme comme Arthur Hage, ben, essaie de le faire à sa manière. Alors Arthur Hage, j'ai rencontré aussi lors de cet appel et de ce lancement. Et donc Arthur Hage, eh bien, était là
dans cette belle maison de la poésie.
Et on va parler supermarché.
CO2, mon amour, je suis à toi.
Voilà, eh ben, c'est beau.
Disons que ça n'a pas commencé par là, mais effectivement, j'ai tourné un clip dans un supermarché en Bretagne, un dimanche qu'on avait loué pour nous-mêmes. Et puis, le réalisateur a tenu absolument à ce que je rampe par terre.
Ah oui.
Il savait que j'adore ramper bien et sûr. Que je peux ramper à la même moment.
Tel le vermisseau de base. Donc,
Tel le vermisseau, devant des étoiles, devant des femmes, oui. Devant des... En tout cas, bon, j'étais dans ce supermarché et du coup, le supermarché, c'est un endroit extrêmement hiérarchique, socialement, très marqué, donc... Ce qui est à hauteur d'œil et de meilleure qualité est plus cher. Et plus on baisse, voilà, et moins c'est cher. Et on arrive en bas à des produits vraiment hardcore, d'origine inconnue, hein, quasiment, quoi. Des trucs recyclés et recyclés et recyclés. Et avec cette masse de production démentielle, en fait, de très très mauvaise qualité, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment terrible. C'est vraiment une injure, en fait, au vivant. C'est une grande cruauté, en fait. Et le problème, c'est que la cruauté qu'on fait au vivant, on se la fait à nous-mêmes, puisque on est ce qu'on mange, et on est le vivant. Donc on est, qu'on le veuille ou non, qu'on soit parisien, new-yorkais ou paysan, peu importe, on est sur la terre, donc on est dans cet écosystème. Mais je trouve qu'on doit vraiment passer à notre relation qui passe par beaucoup plus de conscience.
Et se relier au vivant et donc se relier à la nature et faire avec et pas contre.
Voilà, collaborer avec le vivant en conscience, je dirais presque même en amitié en fait, si ce n'est en amour.
Un verre de vin, je me sens bien.
Alors au-delà des constats qu'on connaît sur l'environnement, sur cette terre, comment on prend les choses quand on est Arthur Hage? C'est-à-dire qu'on a eu conscience de ça petit, il y a eu des événements, il y a eu des rencontres.
Non, c'était assez empirique. Moi, je ne suis pas spécialement un grand amateur de vin, j'en bois pas beaucoup, mais j'ai rencontré parfois dans mes tournées des vignerons naturels, passionnés, tout ça, qui mettent justement beaucoup de conscience, beaucoup de cœur et beaucoup de technique dans ce qu'ils font, voilà, personnellement, humainement. Et quand je goûte leur vin, ça me ravit, quoi, ça me nourrit, c'est un énorme plaisir, quoi.
Parce qu'il raconte une histoire aussi.
Ouais, il raconte une histoire et puis la conscience est le cœur de la personne, quoi. Je suis arrivé à un peu l'écologie par l'amour d'une qualité, en fait. D'aller chercher vraiment quelque chose de qualité qui me parle, que ce soit pour un livre ou un morceau de musique ou un plat ou un endroit.
Que peut dire un artiste comme vous? Pourquoi soutenir donc ce chant des colibris?
Mon désir, c'est de vivre de plus en plus consciemment, quoi. Donc, de plus en plus consciemment, et puis de l'échanger, de le partager, parce que je suis tout seul dans mon coin, je suis comme un con. Ce qui m'arrive très souvent, parce que je suis très solitaire. Mais je suis très bien tout seul aussi. Mais voilà, ça me fait du bien, tout simplement, de ramener mon minuscule grain de sel à des gens que je trouve animés d'une intention bienveillante. Et puis dans cette série de concerts, de rencontrer aussi dans chaque ville des gens qui se bougent le cul, qui font des belles choses et tout ça. Voilà, j'ai pas de message vraiment à délivrer. C'est la célébration de cette société qui est différente, qui est quand même positive, qui sont des gens qui se prennent en main en fait.
Quand vous êtes dans la nature, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette nature ?
La nature, elle m'apporte tout. La nature, c'est ma mère. Quand je suis dans la nature, je me sens vraiment à ma place, en fait. Je me sens à la place, je me sens traversé de plein de flux, en fait. Parce que ce qui est beau dans l'être humain, c'est qu'on est tout petit, on est vraiment minuscule, littéralement, quoi. On est vraiment une fourmi. Et en même temps, on est traversé de plein de trucs qui sont beaucoup plus grands que nous, qui nous dépassent complètement. Et encore faut-il être à l'écoute de ça et se rendre disponible, peut-être dans un certain silence...
Nous sommes partis dans la forêt, là-haut, où ça grimpe.
Donc dans la nature, je sens ça, quoi, voilà. Je suis avec mes frères arbres, mes frères oiseaux. Alors eux, ils voient juste comme un truc bizarre qui passe, qui va pas rester, mais... En tout cas, tout ce que je sais, c'est que quand j'en sors, je suis régénéré, quoi.
Tu savais que beaucoup de femmes ont une âme de guérisseuse ?
Donc j'ai vraiment un besoin vital de nature. Bon, j'adore les villes, mais c'est vrai que les villes te pompent, quoi, prennent ton énergie, alors que la nature te donne de l'énergie. J'aime beaucoup les Landes, parce qu'il y a ce côté un peu début du monde, kilomètres et kilomètres de plages désertes, quelque chose d'extrêmement vaste, très très pur.
Puis les pins qui sont derrière et qui envoient leur ion négatif qui régénère de façon totale.
Bah ouais, t'as l'horizon de la mer, t'as l'horizon de la plage devant toi qui est sans fin, après t'as l'horizon de la dune, et après l'horizon de la forêt, donc ça fait beaucoup d'horizons, ça fait beaucoup de choses où le regard a vraiment... Le regard est limité par rien, le regard peut aller très loin et c'est naturel pour notre regard de voir loin, ça, tout simplement ça fait du bien.
Eh bien, lui aussi, il a signé cet appel du monde de demain, où en fait, j'ai presque dire, il reste. Ça a commencé, mais Cyril Dion a gagné à la fois la bataille, on va dire, culturelle, et aussi, il s'agit de déconstruire les représentations dominantes.
Pour moi, c'est ça le combat aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que je fais des films, ou c'est pour ça que j'écris des livres. Parce que le jour où nos représentations, notre imagination aura changé, où on se dira que c'est complètement ringard de vouloir avoir... plein d'argent, un gros bateau, un gros 4x4, mais que au contraire, on aura le sentiment qu'on sera vraiment heureux quand on sera cohérent avec nous-mêmes et qu'on fera des choses qui ont du sens pour nous, qui sont utiles, qui nous mettent en harmonie avec la nature et avec les gens, ben on aura gagné. Parce que cet imaginaire-là se traduira dans nos structures politiques, économiques et dans notre vie de tous les jours.
Alors cet appel, le Colibri, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses ONG hein, donc, sur ce même appel donc, pour ce monde de demain qui sont bien sûr associés.
Ce qu'on voulait en fait, c'est qu'il y ait à la fois des élus, des ONG, des artistes, des entrepreneurs. Donc il y a des entrepreneurs comme Actes Sud, comme Pocheco qu'on voit dans le film. Il y a des ONG comme la Fondation Nicolas Hulot, comme Emmaüs, comme Ferme d'Avenir, comme Parlement et Citoyens. Il y a le maire de Grenoble, il y a et plein d'artistes, donc effectivement Arthur Hache, Mathieu Chédid, Mélanie Laurent,
Émilie Loiseau,
Marion Cotillard, etc. Ouais. Et puis il y a plein d'autres initiatives, c'est-à-dire que la Fondation Nicolas Hulot va faire sa propre campagne. Là, tout à l'heure, je vais avec un collectif qui s'appelle Les Jours Heureux, qui a écrit un livre de 120 propositions, qui est vraiment super.
Et puis il va y avoir la chanson, donc aussi, donc il va y avoir des rendez-vous.
Exactement, et il va y avoir une tournée de concerts, donc vous pouvez aller sur lechantdescolibris.fr, il y a 6 dates avec des concerts avec tous ces artistes, donc ça va être un moment super tous ensemble.
Luc Jacquet, notre empereur, en fait, c'est le symbole de quoi ce manchot?
Ah, peut-être que c'est un chef-d'œuvre de l'art d'être vivant. Je crois que après l'empereur, il n'y a plus rien. C'est le désert absolu. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est cette partition universelle qui joue devant nous avec une endurance folle, avec une élégance, avec une esthétique. Voilà.
Que l'on retrouve à la fois dans ce numéro de Terre Sauvage, que l'on trouve bien sûr sur les écrans et que l'on retrouve avec cet ouvrage aux éditions Paulsen, L'Empereur. Vous voyez, vous pouvez offrir des fleurs avec plein de chimie, mais vous pouvez aussi vous offrir ça, ça peut être bien. Grand merci à vous deux. Merci Cyril.
Merci Luc.
Merci à Stéphane Poitvin et Raphaël Rousseau, la technique. Camille Blanès, notre assistante. Albert Houck, Xavier Pesuggia qui réalisait l'émission. Muriel Pérez qui a choisi les disques. Anne Bouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, ce sera autre chose. D'ailleurs, un petit débat assez intéressant sur le compteur Linky. Ah, bah oui, il y a des pour, il y a des contre, il y a tout ça. Eh ben, on en causera. Puis il y aura peut-être aussi un peu de rose avec Jean-Marie Pelt. Je vous en dis pas plus.